Chapitre 6. Je déambulais dans les rues d'Endymion en essayant de faire le point sur ma vie, ma mort et ma nouvelle vie. Je dois dire ici que je n'étais pas aussi décontracté à propos de toutes ces choses. Mon procès, mon exécution, mon étrange rencontre avec ce vieux poète mythique, que ne semble le suggérer le présent récit. Une partie de moi était secouée jusqu'au tréfonds. Ils avaient essayé de me tuer. J'aurais voulu faire peser la responsabilité de cet acte sur la Pax, mais les tribunaux n'étaient pas des agents de l'autorité religieuse, pas directement tout au moins. Hyperion avait son propre conseil intérieur, et les cours de justice de Port-Romance étaient établies conformément à notre politique locale. La peine capitale n'était pas la sentence systématique de la Pax, particulièrement sur les mondes où l'Église gouvernait par l'intermédiaire de sa théocratie, mais représentait plutôt un vestige de l'époque coloniale d'Hyperion. Mon procès expéditif, son inévitable conclusion et mon exécution sommaire étaient plutôt, s'il fallait leur donner une interprétation, l'expression des craintes que nourrissaient les notables de Port-Romance et d'Hyperion de voir fuir les touristes venus d'autres planètes pour cause d'insécurité. J'étais un paysan, un guide de chasse, qui avait tué le riche touriste dont il avait la charge. Il fallait faire de moi un exemple, rien d'autre. Je n'avais pas à prendre la chose de manière si personnelle. Je la prenais pourtant de manière très personnelle. Je m'immobilisais au pied de la tour, sentant la chaleur du soleil qui montait des pavés de la cour, et levais lentement les mains devant mes yeux. Elles tremblaient. Trop de choses étaient arrivées en trop peu de temps. Et mon calme forcé pendant le procès, ainsi que la brève période de temps qui s'était écoulée avant mon exécution, avait trop mis mes nerfs à contribution. Secouant la tête, je m'avançais lentement au milieu des ruines de l'université. La cité d'Endymion était bâtie sur les hauteurs d'une colline, et l'université, à l'époque coloniale, se situait encore plus haut sur la crête. La vue au sud et à l'est était merveilleuse. Les forêts de chalmes dans la vallée, tout en bas, brillaient d'un jaune éclatant. Le ciel lapis n'était gâché par aucune traînée d'engins aériens. Je savais que la Pax ne se souciait aucunement d'Endymion, que ses troupes n'étaient là que pour garder la région du plateau du Pignon au nord-est, et que ses robots excavaient toujours le terrain à la recherche des précieux et uniques symbiotes cruciformes. Mais tout ce secteur du continent était interdit depuis tant d'années qu'il en avait retrouvé une nouvelle fraîcheur sauvage. Au bout de 10 minutes de promenade sans but précis, je me rendis compte que la tour où je m'étais réveillé et ses annexes semblaient être les seuls bâtiments occupés. Le reste de l'université était complètement en ruine. Ses vastes halls étaient exposés aux éléments. Son laboratoire de physique avait été dévasté depuis des siècles, ses stades envahis par la végétation, le dôme de son observatoire éventré. Plus bas, sur le versant de la colline, la cité avait un aspect encore plus abandonné. Sur des quartiers entiers, le Vort et le Kudzu avaient totalement repris leurs droits. L'université, c'était visible, devait être splendide en son temps. Les bâtiments de style post-égyrien néo-gothique étaient en grès extraits des contreforts du plateau du Pignon. 3 ans plus tôt, alors que je travaillais comme assistant du célèbre paysagiste Avrol Hume, qui me chargeait de la plupart des travaux de gros œuvres pendant qu'il remodelait les propriétés des premières familles le long de la côte huppée du Bec, la folie la plus en vogue consistait à disposer artistiquement de fausses ruines aux abords des étangs, des bois ou des sommets de collines. J'étais devenu expert dans l'art de déplacer les vieilles pierres savamment patinées pour simuler des ruines, le plus drôle étant que la plupart remontaient apparemment à une époque bien plus ancienne que les débuts de la présence humaine sur ce monde des confins. Aucune des folies de Hume, en vérité, n'avait autant de charme que ces ruines authentiques. Tout en foulant aux pieds les restes de cette université, autrefois grandiose, dont j'admirais l'architecture, je songeais à ma famille. La tradition voulait que la plupart des familles autochtones, et la mienne l'était assurément, ajoutent à leur nom celui de leur cité locale. Mes ancêtres descendaient des premiers pionniers des vaisseaux d'ensemencement, arrivés un peu moins de 7 siècles plus tôt. C'étaient des citoyens de 3e classe sur leur monde d'origine, et ils étaient restés au 3e rang après les membres de la Pax venus de l'extérieur et les colons de l'Égyre arrivés des siècles après eux. Durant des centaines d'années, par la suite, mes ancêtres avaient vécu et travaillé dans ces vallées et montagnes, occupant, j'en suis certain, les emplois les plus humbles. Mon père avait trimé jusqu'à ce que la mort l'emporte prématurément, alors que je n'avais que 8 ans. Puis ma mère avait pris sa relève jusqu'à sa propre mort 5 ans plus tard, et cela avait été mon tour jusqu'à la semaine dernière. Ma grand-mère était née durant la décennie suivant la date où tout le monde avait été chassé de la région par la Pax. Mais grand-dame était assez vieille pour se souvenir de l'époque où les familles de notre clan avaient erré jusqu'au plateau du Pignon pour offrir leur travail dans les plantations de fibroplastes situées au sud d'Endymion. Je n'avais nullement l'impression de revenir au bercail. Je ne me sentais chez moi que dans les landes glacées situées au nord-est d'Endymion. Quant au lieu que j'avais choisi pour vivre et travailler, c'était les marais du nord de Port-Romance. Cette université et cette cité n'avaient jamais fait partie de ma vie. Elles n'avaient pas plus de rapport avec moi que les récits farfelus évoqués dans les cantos du vieux poète. Au pied du nouvel tour, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle et méditer sur cette dernière pensée. Si la proposition du poète correspondait à quelque chose de réel, les récits farfelus des cantos allaient avoir plus d'un rapport avec moi. Je songeais à grand-dame qui m'avait récité plus d'une fois ce poème épique, puis je me souvins des nuits passées à surveiller les moutons dans les collines du nord, de nos caravanes alimentées par batterie et disposées en cercle protecteur pour la nuit, de feux de camp incapables de ternir la beauté des constellations ou des averses de météorites dans le ciel. Je me souvins aussi des intonations lentes et mesurées de grand-dame, tandis qu'elle finissait chaque strophe et attendait que je lui récite les vers que je venais d'entendre. Je le faisais avec une certaine impatience, car j'aurais préféré aller m'asseoir sous la lanterne pour feuilleter les pages d'un livre. Mais je souriais maintenant à la pensée que j'allais dîner ce soir en compagnie de l'auteur de ces vers, et qui plus est, l'un des 7 pèlerins dont le poème chantait les exploits. Je secouais de nouveau la tête. C'était trop pour moi, et trop tôt. Il y avait quelque chose d'étrange qui émanait de cette tour. Elle était plus large et plus haute que celle où je m'étais réveillé. Et elle n'avait qu'une seule fenêtre, une ouverture en arcade située à 30 mètres du sol. Plus intéressant encore, la porte avait été murée. Grâce à mon expérience des travaux de maçonnerie acquise au service d'Avrol Hume, j'étais en mesure d'affirmer que cette entrée avait été condamnée avant l'abandon du secteur, 1 siècle auparavant, mais pas tellement longtemps avant. Aujourd'hui encore, j'ignore ce qui m'a attiré vers cette tour alors qu'il y avait tant d'autres ruines à explorer ce jour-là. Mais ma curiosité était excitée. J'examinais le versant de collines escarpées derrière la tour et remarquais la profusion de chalmes feuillus qui entouraient la base de l'édifice comme du lierre au tronc épais. En grimpant le talus ici et en pénétrant dans le bosquet de chalme à cet endroit, juste là, on pourrait atteindre cette grosse branche et arriver presque à hauteur du seuil de cette fenêtre en arcade. Je secouai la tête. C'était ridicule. Tout ce que je gagnerais à me lancer dans cette aventure puérile, ce serait de bonnes écorchures aux mains et des vêtements déchirés, sans compter les risques de chute sur une hauteur de 30 mètres. Et qu'est-ce que j'espérais trouver là-haut? Que pouvait-il y avoir dans une vieille tour condamnée à part des araignées et leurs toiles? 10 minutes plus tard, j'étais sur la grosse branche noueuse et j'avançais, centimètre par centimètre, en essayant de m'agripper au creux des pierres ou aux lianes de chalme au-dessus de moi quand elles étaient assez solides pour soutenir mon poids. La grosse branche poussait trop près du mur pour que je puisse y ramper à califourchon, et il me fallait progresser de côté sur les genoux, le chalme au-dessus de ma tête étant trop bas pour me permettre de me tenir debout. J'éprouvais une angoisse terrible à l'idée d'être découvert et poussé vers le vide. Et chaque fois qu'une rafale de vent d'automne soufflait en secouant les branches et les feuilles, je cessais d'avancer et m'agrippais de toutes mes forces. Je finis par atteindre l'ouverture et laissai échapper un juron à voix basse. Mes calculs, faits à la légère 30 mètres plus bas, étaient quelque peu erronés. La branche de chalm passait à près de 3 mètres sous le seuil de l'arcade. Et il n'y avait aucune fissure visible dans la pierre, aucune aspérité ni aucune végétation qui eût pu me permettre de franchir cet espace. Le seul moyen était de sauter, en espérant que mes doigts trouveraient une prise. Mais c'était insensé. Il n'y avait rien dans cette tour qui justifiât un tel risque. J'attendis que le vent se calme, pliai les genoux et fis un bond. Durant une seconde de malaise, mes doigts glissèrent sur la pierre effritée, mes ongles raclèrent la poussière sans trouver aucune prise, puis rencontrèrent l'ancien rebord pourri et s'y accrochèrent. Je me hissai, haletant, déchirant ma chemise au-dessus du coude, raclant la pierre avec les chaussures souples que Abétic m'avait données. Je finis par trouver une prise pour un pied. Je fus rapidement sur le rebord de l'arcade en me demandant maintenant comment j'allais redescendre sur la branche de chalm. Et mon inquiétude ne fit que s'amplifier une seconde plus tard lorsque je me penchais pour scruter l'intérieur sombre de la tour. « Sainte merde !» soufflai-je sans m'adresser à personne en particulier. Il y avait un vieux palier en bois qui courait le long du mur, juste en dessous du seuil où je me trouvais, mais l'intérieur de la tour était par ailleurs creux. La lumière qui filtrait à travers la fenêtre illuminait un reste d'escalier pourri en haut et en bas du palier. Il spiralait à l'intérieur un peu comme les branches de chalm au dehors, mais le centre de la tour était plongé dans une obscurité quasi totale. En levant la tête, je vis passer quelques raies de soleil à travers une espèce de toiture provisoire en bois qui coiffait l'édifice 30 mètres plus haut environ, et je me rendis compte que la tour n'était guère plus qu'une sorte de silo à grains géants, un simple cylindre de pierre de 60 mètres de haut. Rien d'étonnant à ce qu'elle n'ait eu besoin que d'une seule fenêtre et que sa porte ait été murée avant l'évacuation d'Endymion. Toujours en équilibre sur le rebord de la fenêtre, peu désireux d'éprouver la solidité du palier en bois, je secouai la tête une dernière fois. Un jour, ma curiosité allait sans doute me tuer. Plissant les yeux pour essayer de percer les ténèbres au-dessous de moi, si différentes par contraste que la riche clarté de l'après-midi qui baignait l'extérieur, je m'avisai soudain qu'elles étaient anormalement noires. Je ne voyais ni le mur, ni l'escalier en spirale. Pourtant, il y avait de la lumière qui passait à l'intérieur. On apercevait un pan d'escalier à un endroit, on voyait le mur courbe à quelques mètres au-dessus de ma tête, mais à mon niveau, la plus grande partie de l'intérieur était invisible. « Seigneur, » chuchotai-je, « il y avait quelque chose d'immense qui emplissait la majeure partie de cette tour noire. » Lentement, en prenant bien soin de ne pas lâcher l'encadrement de pierre, je me laissai glisser sur le palier de bois. Le bois craqua, mais il semblait assez solide pour supporter mon corps. Je me penchai, toujours sans lâcher prise, en laissant porter une partie de mon poids sur mes pieds. Il me fallut près d'une minute pour comprendre ce que j'avais sous les yeux. Un vaisseau spatial. Il remplissait presque tout l'espace intérieur de la tour, comme une balle engagée dans la chambre d'un pistolet ancien. Je laissai tomber tout mon poids sur le palier, abandonnant toute prudence, et m'avançai pour mieux voir. Ce n'était pas un très gros vaisseau, comparativement aux autres. Il devait faire une 50aine de mètres de hauteur, et sa coque était d'un diamètre plutôt étroit. Le métal qui la constituait, si c'était du métal, était d'un noir mat qui semblait absorber la lumière. Je ne vis pas le moindre éclat ni le moindre reflet. Je ne devinais ses contours qu'en regardant la pierre tout autour et l'endroit où elle s'arrêtait ainsi que la lumière. Il n'y avait pas eu un seul instant de doute dans mon esprit. C'était bien un vaisseau spatial, dans toute sa splendeur archétypique. J'ai lu quelque part que les jeunes enfants, sur des centaines de mondes, dessinent toujours une maison en traçant une boîte surmontée d'une pyramide avec une cheminée rectangulaire où s'élève une fumée spiralante, Même s'ils vivent dans des nacelles organiques vivantes juchées au sommet de grands arbres résidentiels aérénés. De même, ils dessinent toujours des montagnes qui ressemblent au mont Cervin, même si celles de leur voisinage ont plutôt l'aspect des collines arrondies qui forment la base du plateau du Pignon. J'ignore ce que l'auteur de l'article donnait comme raison. Une espèce de mémoire atavique, peut-être, ou bien un câblage du cerveau qui le rend réceptif à certains symboles. La chose que j'étais en train de contempler, ou même d'épier, surtout en tant qu'espace négatif, n'était pas tant un vaisseau spatial que l'archétype du vaisseau spatial. J'ai vu des images des vieilles fusées de l'ancienne Terre, d'avant la Pax, d'avant la chute, d'avant l'hégémonie et d'avant les gires, d'avant presque tout en somme. Et elles ressemblaient en général à cette masse noire aux formes courbes, hautes, fines, dégradées aux deux extrémités, pointu au sommet avec des ailerons à la base. J'étais en train de contempler l'image archétypique câblée inscrite dans la mémoire de race, symboliquement parfaite, de la fusée spatiale. Il n'existait pas de vaisseau spatial privé ou égaré sur Hyperion. De cela, j'étais absolument sûr. Les engins spatiaux, même ceux qui appartenaient à la variété interplanétaire la plus simple, étaient tout simplement beaucoup trop rares et beaucoup trop chers pour qu'on les laisse moisir dans de vieilles tours en pierre. À une époque, des siècles avant la chute, alors que les ressources du RETS semblaient illimitées, il y avait peut-être pléthore de vaisseaux spatiaux, engins militaires de la force, vaisseaux diplomatiques de l'hégémonie, des gouvernements planétaires, des multinationales, des fondations, des instituts d'exploration, et aussi quelques vaisseaux privés appartenant à des hyper-milliardaires. Mais même en ces temps-là, seule une économie planétaire pouvait se permettre de faire construire un vaisseau spatial. De mon vivant, comme du vivant de ma mère, de ma grand-mère et de leurs propres aïeuls, seule la Pax, ce consortium d'églises et de sommaires gouvernements interstellaires, pouvait s'offrir le luxe de posséder des vaisseaux spatiaux de quelque taille que ce fût. Aucun individu, pas même sa sainteté sur Passem, ne pouvait songer à en avoir un dans son jardin. Mais c'était bien un vaisseau spatial que j'avais devant moi. Je le savais. Ne me demandez pas comment, mais je le savais. Sans prêter davantage attention à l'état inquiétant des marches, je commençais à descendre puis à remonter l'escalier en spirale. La coque se trouvait à 4 mètres de moi. Sa noirceur insondable me donnait le vertige. À mi-chemin sur la paroi, vers le côté opposé de la tour et à 15 mètres au-dessous de moi, juste visible avant que la rotondité noire ne l'occulte, il y avait un palier qui s'étendait presque jusqu'à la coque. J'y descendis aussi vite que je pus. Une marche pourrie céda sous mon poids, mais je courais si vite que c'est à peine si je m'en aperçus. Le petit palier n'avait pas de garde-fou et faisait saillie comme une planche de plongeoir. Si j'en tombais, je me romprais certainement tous les os et je resterais indéfiniment dans le noir au fond de cette tour condamnée. Mais je ne voulais pas y penser et je m'avançais pour poser la main sur la coque. Elle était chaude. Elle n'avait pas la consistance du métal. Cela ressemblait plutôt à la peau douce d'une créature endormie. Pour renforcer cette illusion, il y avait un léger mouvement, une vibration, comme si le vaisseau respirait, comme si ma main sentait des battements de cœur. Soudain, le mouvement s'amplifia sous mes doigts. La coque se rétracta littéralement, non pas comme un rideau qui se soulève, ni comme une porte qui pivote sur ses gonds, mais plutôt comme des lèvres qui s'arrondissent en arrière. Des lumières s'allumèrent. Un corridor interne, aux parois et au plafond aussi organique qu'un col d'utérus géant, brilla d'un éclat feutré. J'hésitais le temps d'une nanoseconde. Durant des années, ma vie avait été aussi paisible et prévisible que celle de la plupart des gens. Mais en l'espace d'une semaine, j'avais accidentellement tué un homme, j'avais été condamné puis exécuté, et je m'étais réveillé au milieu du mythe préféré de grande dame. Pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Je pénétrais dans le vaisseau spatial. L'ouverture se referma derrière moi comme une bouche affamée sur un morceau de choix. Le corridor n'était pas tel que je l'aurais imaginé à bord d'un vaisseau. Je m'étais toujours représenté l'intérieur d'un bâtiment spatial comme la soute du navire transport de troupes qui acheminait mon régiment de la garde nationale sur le continent d'Ursus, avec ses cloisons métalliques grises à rivets, ses écoutilles à poignées de sécurité et ses sifflets de vapeur. Rien de tout cela n'était visible ici. Le corridor était lisse et courbe, presque sans forme particulière, et les cloisons étaient revêtues de panneaux d'un bois aussi riche et chaud que de la chair organique. S'il y avait un sas d'entrée, je ne m'en étais pas rendu compte. Les lumières cachées s'allumaient puis s'éteignaient sur mon passage, de sorte que j'étais toujours baigné d'une douce clarté entourée d'ombre. Je savais que le vaisseau ne pouvait avoir plus de 10 mètres de diamètre, mais la courbure légère du corridor le faisait paraître bien plus vaste à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le corridor se terminait à un endroit qui devait être le centre du vaisseau. C'était un puits central, avec un escalier de métal spiralant vers le haut et vers le bas, pour se perdre dans l'obscurité. Je posai le pied sur la première marche, et la lumière se fit au-dessus de ma tête. Conjecturant que les parties intéressantes devaient être plutôt en haut, je commençai à grimper. Le pont supérieur occupait toute la périphérie du vaisseau. Il y avait là une fosse de projection holo telle que j'en avais vue dans les illustrations de très vieux livres. Des sièges et des tables dont j'étais incapable d'identifier le style étaient disposés un peu partout. Il y avait aussi un piano à queue. Je dois préciser ici qu'il n'y avait probablement pas sur Hyperion une personne sur 10 000 capable de reconnaître un piano, surtout un piano à queue. Mais ma mère et grande dame aimaient passionnément la musique et presque tout l'espace de l'une de nos caravanes électriques était occupé par cet instrument pré-égyrien. J'avais entendu d'innombrables fois mes oncles et mon grand-père se plaindre de son poids et de son encombrement, qui nous faisait gaspiller tant d'énergie lorsqu'il fallait le transporter à travers les Landes d'Aquila, et leur faire remarquer qu'un synthétiseur de poche, simple question de bon sens, pouvait recréer la musique de n'importe quel piano et même de n'importe quel instrument. Mais ma mère et grande dame insistaient pour dire que rien ne pouvait égaler la sonorité d'un vrai piano, même s'il fallait le réaccorder chaque fois qu'on le transportait. Par contre, ni mes oncles ni mon grand-père n'élevaient la moindre protestation lorsque grand-dame jouait du Rachmaninov, du Bach ou du Mozart le soir autour d'un bon feu de camp. C'est cette vieille femme qui m'avait appris tout ce que je savais sur les pianos, y compris les pianos à queue pré-égyriens, et voilà que j'en avais un sous les yeux dans cet endroit pour le moins insolite. Ignorant la fosse holo et le mobilier, ignorant la paroi courbe transparente qui ne laissait voir que les vieilles pierres de l'intérieur de la tour, je m'avançais vers le piano à queue. Les lettres dorées au-dessus du clavier indiquaient Steinway. Je laissais échapper un sifflement et caressais les touches sans oser en enfoncer une. D'après grande dame, cette compagnie avait cessé de fabriquer des pianos avant la grande erreur de 08, et aucun n'avait été produit depuis les GIR. J'avais sous les doigts un instrument âgé d'au moins 1 000 ans. Steinway et Stradivarius étaient des noms mythiques pour les amateurs de musique. Comment une telle chose était-elle possible ? Me demandai-je en laissant mes doigts effleurer les touches en ivoire légendaire, provenant de ces créatures depuis longtemps éteintes que l'on appelait des éléphants. Les humains, comme ce vieux poète dans sa tour, pouvaient à la rigueur survivre depuis l'époque pré-égyrienne grâce au traitement Poulsen et aux méthodes de conservation cryotechnique, mais des artefacts en bois, en ivoire et en cordes d'acier avaient peu de chances d'accomplir sans dommage un tel voyage à travers le temps et l'espace. Je jouais un accord, do mi sol si dièse, puis un autre en ut majeur. Le son était impeccable, l'acoustique du vaisseau parfaite. Notre vieux piano droit avait besoin d'être réaccordé après chaque voyage de quelques kilomètres à travers la lande, mais celui-ci semblait parfaitement en état après d'innombrables années-lumière et siècles de voyage. Je tirai le tabouret, m'y assis et me mis à jouer Für Elise. C'était un morceau tout simple, un peu trop sentimental, mais qui me semblait correspondre tout à fait au silence et à la solitude de ce lieu obscur. J'eus même l'impression que la lumière baissait autour de moi, tandis que les notes remplissaient l'espace circulaire et se répercutaient vers le haut et le bas du ténébreux escalier en spirale. Tout en jouant, je songeais à ma mère et à grand-dame, qui n'auraient sans doute jamais imaginé que je puisse mettre un jour leurs leçons à profit sur un Steinway à bord d'un vaisseau spatial dissimulé dans une vieille tour. Et la mélancolie de cette pensée semblait emplir ma musique. Lorsque j'eus fini, je retirai vivement mes doigts du clavier, comme si j'étais coupable de m'être montré présomptueux en jouant mal une si modeste pièce sur ce merveilleux piano, don du passé. Je demeurai assis en silence un bon moment, en me posant des questions à propos du vaisseau, du vieux poète, et de la place que j'occupais dans ce fol agencement d'événements. « Très joli », murmura doucement une voix derrière moi. J'avoue que je fis un bond. Je n'avais entendu personne monter ou descendre l'escalier, je n'avais senti aucune présence dans la pièce. Je tournai la tête de tous les côtés. Il n'y avait personne.
Il y a très longtemps que je n'avais entendu jouer ce morceau, reprit la voix qui semblait émaner du centre de la pièce vide. Mon précédent passager préférait Rachmaninov.
J'agrippai d'une main le bord du tabouret pour me stabiliser et pensais à toutes les questions stupides que je pouvais éviter de poser.
Êtes-vous le vaisseau ? Demandai-je enfin, sans savoir si c'était une question stupide ou non, mais curieux d'entendre la réponse.
Naturellement, fit la voix.
Elle était douce, mais vaguement masculine. J'avais déjà, bien sûr, entendu des machines parlantes, il y avait une éternité que cela existait, mais aucune n'était véritablement intelligente. L'Église et la Pax avaient banni toutes les véritables IA, plus de 2 siècles auparavant, et la presque totalité des milliards de gens qui peuplaient un millier de mondes dévastés étaient d'accord de tout leur cœur après avoir vu la manière dont le technocentre avait aidé les extros à détruire l'hégémonie. Je pus constater que j'avais été moi-même dûment endoctriné à cet égard. La seule pensée que j'étais en train de parler à une entité véritablement sentiente me rendait les mains moites et me contractait la gorge.
« Qui était votre précédent passager ? » demandai-je.
Il y eut comme une hésitation.
« Ce monsieur était généralement connu sous le nom de consul, » me répondit enfin le vaisseau. Il a joué le rôle de diplomate au service de l'hégémonie durant la majeure partie de sa vie.
Ce fut à mon tour d'hésiter avant de parler. L'idée m'était soudain venue que mon exécution à Port-Romance avait perturbé mes neurones au point de me donner l'illusion de vivre dans l'un des poèmes épiques de Grand-Dame.
« Qu'est-il arrivé au consul ? » demandai-je.
« Il est mort. »
La voix avait pris une légère intonation de regret pour dire cela.
Comment ? Voulus-je savoir.
À la fin des cantos du vieux poète, après la chute du Retz, le consul de l'hégémonie avait pris un vaisseau spatial pour retourner sur un monde rétien.
Ce vaisseau-là ?
Où est-il mort ? Demandai-je. D'après les Cantos, le vaisseau que le consul avait pris pour quitter Hyperion était habité par la personnalité du second cybride de John Keats.
« Je ne me souviens pas, » me répondit le vaisseau. « Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort et que je suis revenu ici. Je suppose que j'ai obéi à une directive programmée à l'époque dans mes banques de commandes.
« Avez-vous un nom ?» demandai-je, curieux de savoir si je parlais bien à la personnalité IA de John Keats.
« Non, » me répondit la voix. « Aucun autre nom que vaisseau. »
De nouveau, il y eut une pause qui était plus qu'un simple silence.
« Mais je crois me souvenir que j'avais un nom à une certaine époque, » reprit le vaisseau.
« Était-ce John ? Ou bien Johnny ? »
« C'est possible. Les détails ne sont pas bien nets.
Pourquoi ? Votre mémoire ne fonctionne pas correctement ?
Ce n'est pas du tout cela. Pour autant que je puisse me livrer à des déductions, il a dû y avoir un événement traumatique, à peu près 200 années standard dans le passé, qui a effacé certains de mes souvenirs. Mais depuis lors,
Ma mémoire et mes autres facultés fonctionnent tout à fait normalement.
Vous ne vous souvenez pas de l'événement lui-même ? Du traumatisme ?
Non, fit le vaisseau d'une voix assez détachée. Je pense que cela s'est produit à l'époque de la mort du consul et de mon retour sur Hyperion, mais je n'ai aucune certitude.
Et depuis votre retour, vous êtes resté dissimulé ici, dans cette tour ?
Oui. J'ai passé un certain temps dans la cité des poètes, mais je suis ici depuis près de 2 siècles locaux.
Qui vous a conduit dans ce lieu ?
Martin Silenus, le poète. Vous avez fait sa connaissance aujourd'hui.
Vous êtes donc au courant ?
Bien sûr. C'est moi qui ai communiqué à H. Silenus les détails de votre procès et de votre exécution. C'est moi qui ai acheté la complicité des officiels et organisé votre transport ici.
Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? M'étonnais-je.
L'idée de ce vaisseau massif et archaïque montrant son image sur les réseaux de communication me semblait trop grotesque. Hyperion ne possède plus d'infosphère véritable, me répondit-il. Mais j'ai vu sur toutes les communications par ondes micrométriques et par satellite, de même que sur certaines bandes dites de sécurité, par fibre optique ou maser sur lesquelles je me suis branché.
Vous servez donc d'espion au vieux poète ?
Oui. Que savez-vous de ces projets à mon égard ?
Je me tournai de nouveau vers le piano et me mis à jouer l'air pour la corde de sol de Bach.
À Chandimion ? Fit une autre voix derrière moi.
Cessant de jouer, je me retournai pour voir Abétic, l'androïde, à l'entrée de l'escalier circulaire.
Mon maître commençait à s'inquiéter pour vous. Il avait peur que vous ne soyez perdu. Je suis venu vous montrer le chemin du retour. Vous avez juste le temps de vous habiller pour le dîner.
Je haussai les épaules et m'avançai jusqu'à l'escalier. Avant de descendre derrière l'homme bleu, je me tournai pour dire à la pièce qui s'obscurcissait déjà « Je suis heureux d'avoir pu bavarder un instant avec vous, vaisseau. »«
Tout le plaisir est pour moi, à Chandimion. À bientôt, j'en suis sûr. »
Chapitre 7. Les vaisseaux torches Balthazar, Melchior et Gaspar se trouvent à une UA entière des forêts orbitales en flammes et décélèrent toujours autour du soleil sans nom, lorsque la mère commandante Stone sonne à l'entrée du compartiment du père capitaine de Soya pour l'informer que les courriers ont été ressuscités.
Ou plutôt, l'un des deux a été ressuscité avec succès, précise-t-elle en flottant à travers le diaphragme ouvert.
Le père capitaine de Soya plisse le front.
Est-ce que celui qui n'a pas eu de chance a été remis dans la crèche de résurrection ? Demande-t-il.
Pas encore. Le père Sapiéa est avec le ressuscité.
De Soya hoche la tête.
La Pax ? Demande-t-il.
Il espère que c'est bien cela. Les courriers du Vatican, généralement, apportent encore plus de problèmes que les courriers militaires. Mais la mère commandante Stone secoue négativement la tête. Ils viennent tous les deux du Vatican. Le père Gavronsky et le père Vendris sont tous deux légionnaires du Christ.
De Soya doit faire un gros effort de volonté pour ne pas soupirer. Les légionnaires du Christ, au fil des siècles, ont pratiquement remplacé les jésuites plus libéraux. Leur pouvoir a grandi au sein de l'Église depuis la Grande Erreur, et ce n'est un secret pour personne que le pape a eu recours à eux en tant que troupe de choc lorsqu'il y avait des conflits internes à régler dans la hiérarchie ecclésiastique.
Lequel des deux a survécu ? Demande-t-il.
Le père Vendris, fait Stone en jetant un coup d'œil à son père Soc.
Il devrait être régénéré à l'heure qu'il est, capitaine.
Parfait, déclare De Soya. Réglez le champ interne à 1G à 6h45. Accueillez les capitaines Hearn et Boulez à bord et faites-leur part de mes compliments. Vous voudrez bien les conduire à la salle de réunion en proue. Je resterai en compagnie de Vendris jusqu'à ce qu'ils y soient.
À vos ordres, fait la mère commandante en se retirant.
La chambre de régénération attenante à la crèche de résurrection est plus une chapelle qu'une infirmerie. Le père capitaine de Soya fait une génuflexion en direction de l'autel, puis rejoint le père Sapiéa près de la table roulante où le courrier est assis.
Sapieha est plus âgé que la moyenne des membres de l'équipage de la Pax. Il a au moins 70 années standard. Et la lumière douce des halogènes se reflète sur son crâne chauve. De Soya a toujours trouvé l'aumônier du vaisseau un peu brusque et pas très malin, à l'image de plusieurs prêtres paroissiaux qu'il a connus dans son enfance. « Père capitaine », fait l'aumônier en guise de salut. Il incline la tête et s'avance vers l'homme assis sur la table roulante. Le père Vendris est jeune, moins de 30 années standard, et ses longs cheveux bruns sont bouclés à la mode actuelle du Vatican, ou plutôt à la mode naissante la dernière fois que De Soya a vu Passem et le Vatican, car un déficit de temps de 3 ans s'est déjà accumulé durant les 2 mois qu'a duré sa mission.
« Père Vendris, » murmure-t-il, « m'entendez-vous ?»
Le jeune homme assis sur la banquette hoche la tête et laisse entendre un grognement. Le langage ne vient pas facilement durant les quelques minutes qui suivent la résurrection. C'est du moins ce que De Soya a toujours entendu dire.
« Bon, » déclare l'aumônier, « je ferai bien de remettre l'autre corps dans la crèche. »
Il fronce les sourcils en regardant De Soya, comme si le père capitaine était personnellement responsable de la résurrection avortée.
« Quel gâchis !» murmure l'aumônier. « Il va falloir des semaines, peut-être des mois, pour que le père Gavronski soit correctement ressuscité. Et le processus risque d'être très douloureux pour lui. »
De Soya hoche la tête.
« Voulez-vous le voir, père capitaine ?» insiste l'aumônier. « Son corps est à peine reconnaissable en tant qu'être humain, mais ses organes internes sont visibles et tout à fait... »«
Vaquez à vos occupations, père Sapieha, » murmure De Soya. « Je n'ai plus besoin de vous ici. »
L'aumônier fronce de nouveau les sourcils, comme s'il voulait dire quelque chose, mais le klaxon de gravité retentit à ce moment-là et les deux hommes doivent changer de position de manière à ce que leurs pieds touchent le sol tandis que le champ de confinement interne se redéfinit. La gravité grimpe alors progressivement jusqu'à 1G tandis que le père Vendris se laisse aller en arrière contre les coussins de la table roulante et que l'aumônier sort en traînant les pieds. Même après une seule journée sous gravité zéro, le retour de la pesanteur est lourd à supporter.
« Père Vendris, » chuchote De Soya, « m'entendez-vous ?»
Le jeune homme hoche affirmativement la tête. Son regard exprime la douleur qu'il ressent. Sa peau brille comme si elle venait d'être greffée ou comme celle d'un nouveau-né. La chair est rose et semble à vif, presque brûlée. Le cruciforme sur sa poitrine est livide et fait 2 fois la taille normale.
« Savez-vous où vous êtes ?» demande De Soya.
« Et qui vous êtes ?» ajoute-t-il mentalement. L'état de confusion post-résurrectionnelle peut durer des heures ou des jours. De Soya sait que les courriers sont entraînés de manière à venir rapidement à bout de cette confusion. Mais comment peut-on préparer quelqu'un à mourir puis à ressusciter ? L'un de ses instructeurs au séminaire a résumé un jour très clairement la situation. Les cellules gardent la mémoire de leur mort et la conscience d'être morte, même si l'esprit pense différemment.
« Je me souviens, » murmure le père Vendris d'une voix qui paraît être aussi à vif que sa chair.
« Vous êtes le capitaine De Soya ?»«
Le père capitaine De Soya, c'est exact. »
Vendris essaie de se soulever sur un coude, mais en vain.
« Plus près, »
murmure-t-il, trop faible pour décoller la tête de l'oreiller qui le soutient. De Soya se penche en avant. Il émane de l'autre prêtre une faible odeur de formaldéhyde. Seuls certains membres du clergé sont rompus au vrai mystère de la résurrection et De Soya a choisi de ne pas faire partie de leur élite. Il peut officier un baptême et administrer la communion ou l'extrême onction. En tant que capitaine de vaisseau spatial, il a eu l'occasion de pratiquer plus souvent la dernière que la première opération. Mais il n'a jamais assisté au sacrement de la résurrection. Il n'a aucune idée des processus mis en œuvre, au-delà du miracle du cruciforme, pour rendre au corps détruit et compressé de cet homme, à ses neurones en ruine et à sa masse cérébrale éparpillée, la forme humaine qu'il a en ce moment sous les yeux. Vendris se met à chuchoter quelque chose et De Soya se penche encore plus en avant. Les lèvres du prêtre ressuscité lui touchent presque l'oreille.
« Dois vous parler ?»
réussit à dire l'envoyé du Vatican dans un effort surhumain.
De Soya hoche la tête.
J'ai organisé une réunion dans 15 minutes avec mes deux commandants de bord. Nous vous procurerons un siège flottant et...
Vandris secoue la tête.
Pas de réunion. Message pour vous seul.
De Soya ne laisse voir aucun changement d'expression.
Très bien. Voulez-vous attendre d'être un peu plus, de nouveau,
le signe de dénégation douloureuse. Le visage du prêtre à la peau tendue et striée, comme si les muscles se voyaient à travers.
Tout de suite,
murmure-t-il. De Soya se penche encore, sans rien dire.
Vous allez prendre le vaisseau courrier. Archange, immédiatement.
Alette Vandris.
Sa destination est déjà programmée.
De Soya demeure sans expression. Mais il est en train de penser « Ce sera donc une mort douloureuse par accélération. D'où Jésus, ne pouvais-tu pas m'épargner de boire à cette coupe-là »
« Que dois-je dire aux autres ? »
demande-t-il. Le père Vandris secoue la tête.
« Ne leur dites rien. Donnez à votre second officier le commandement du Balthazar. Le commandement du corps expéditionnaire reviendra à la mère capitaine Boulès. La mission mage recevra d'autres ordres ultérieurement.
Serais-je informé de ces autres ordres ?
Demande de Soya. Sa mâchoire lui fait mal tant elle est tendue dans son effort pour paraître calme. 30 secondes plus tôt, la survie et le succès de son vaisseau et du corps expéditionnaire étaient sa principale raison de vivre.
Non,
lui répond Vandris.
Ces ordres ne vous concernent plus.
Le prêtre ressuscité est blême de douleur et d'épuisement. De Soya se rend compte que cela lui procure une certaine satisfaction et récite aussitôt une courte prière mentale pour se faire pardonner.
Je dois partir sur le champ, dit-il, répétant ses ordres. Puis-je emporter quelques affaires personnelles ?
Il pense surtout à la miniature en porcelaine que lui a donnée sa sœur peu de temps avant sa mort sur le vecteur Renaissance. La pièce fragile, incluse dans un tube de stase pendant les manœuvres à G élevé, ne l'a jamais quittée durant toutes les années où il a bourlingué dans l'espace.
« Non,
fait le père Vandris.
Partez immédiatement. N'emportez rien avec vous. »
Et c'est sur ordre de...
À travers son expression de douleur atroce, il voit Vandris froncer les sourcils.
Sur ordre direct de Sa Sainteté le Pape Jules XIV,
déclare le courrier.
Il s'agit d'une priorité Oméga qui annule et remplace tous les ordres précédent du commandement militaire de la Pax ou de la flotte Spacomsée. Comprenez-vous bien, père capitaine de Soya.
Je comprends,
murmure le jésuite en inclinant la tête pour marquer sa soumission. Le vaisseau courrier de la classe Archange n'a pas de nom. De Soya n'a jamais considéré les vaisseaux torches comme des modèles de beauté, avec leur renflement en forme de calebasse et leurs modules de commandement et d'armement qui paraissent minuscules à côté de l'énorme réacteur Hawking et de la sphère à fusion incorporée à la coque. Mais l'archange, en comparaison, est d'une laideur repoussante. C'est une masse de sphères asymétriques, de dodécaèdres, d'appendices, de câbles structuraux et de support de réacteur Hawking. La cabine des passagers, au centre de tout ce fouillis, a l'air d'une simple arrière-pensée. Au cours d'une brève réunion, De Soya a expliqué à Hearn, Boulès et Stone qu'il était appelé à une autre mission.
après avoir réparti les nouvelles responsabilités entre les membres médusés du commandement de la force d'intervention, il a pris une nacelle de transport monoplace pour gagner l'Archange, en faisant tous ses efforts pour ne pas regarder derrière lui dans la direction de son cher Balthazar. Au dernier moment, cependant, avant de s'arrimer au vaisseau courrier, il n'a pu s'empêcher de contempler avec nostalgie le magnifique vaisseau torche sur le flanc courbe duquel la lumière solaire peignait une aube en forme de croissant dominant un monde de rêve. Puis il a résolument tourné la tête de l'autre côté. Il voit en entrant que l'Archange n'est équipé que d'un poste virtuel de commandement tactique, de commande manuelle et d'une cabine centrale extrêmement sommaire. L'intérieur de la nacelle de commandement est à peine plus large que ne l'était sa cabine encombrée du Balthazar. Encore est-il occupé en partie par des enchevêtrements de câbles et de fibres optiques, avec des disques techniques interface contact dans tous les coins, et deux couchettes d'accélération au milieu. Le seul autre espace de vie est la minuscule cabine de navigation avec son armoire. Il voit tout de suite que les couchettes d'accélération ne sont pas du modèle habituel. Il s'agit de plateaux d'acier non capitonnés, à forme humaine, qui ressemblent davantage à des tables d'autopsie qu'à des couchettes. Les plateaux sont munis d'un rebord en gouttière pour empêcher les fluides de tout éclabousser sous des jets élevés, sans aucun doute. Le seul champ de confinement compensateur du vaisseau doit se trouver sous ces couchettes, pour empêcher la chair, les os et les matières cérébrales pulvérisées de s'échapper pendant les périodes G0 après la décélération finale. De Soya aperçoit les embouts qui servent à injecter de l'eau ou une solution de nettoyage quelconque à haute pression pour laver l'acier. Le résultat n'est d'ailleurs pas totalement satisfaisant.
« Accélération dans 2 minutes !» annonce une voix métallique. « Sanglez-vous immédiatement !»
Pas de temps perdu en politesse, se dit De Soya. « Pas le moindre, s'il vous plaît !»
« Vaisseau ?» demande-t-il.
Mais il sait qu'aucune IA n'est autorisée à bord des vaisseaux de la Pax. En fait, les IA sont bannis de tout l'espace humain soumis à la domination de la Pax. Mais il se disait que le Vatican avait peut-être fait une exception pour cet archange.
« Accélération dans 1 minute 30 secondes !»
dit la voix. De Soya comprend qu'il a affaire à une machine stupide. Il se hâte d'ajuster son harnais. Les sangles sont larges, épaisses et sans doute inutiles. Le champ de confinement suffira probablement à le maintenir en place, lui ou ses restes.
« 30 secondes !»
fait la voix stupide.
« Vous êtes informé que la translation C+ aura des effets mortels. »«
Merci, » murmure le capitaine Federico De Soya. Son cœur bat si fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Les voyants lumineux de divers instruments clignotent. Il n'y a rien ici qui permette à un occupant humain de prendre manuellement les commandes, aussi s'en désintéresse-t-il totalement.
« 15 secondes !»
annonce le vaisseau.
« Vous désirez peut-être prier. »«
Va te faire foutre !»
fait De Soya. Il prie depuis qu'il a quitté la chambre de réanimation du courrier. Mais il ajoute maintenant un appendice à sa prière pour se faire pardonner son obscénité.
« 5 secondes !»
dit la voix.
Il n'y aura pas d'autre communication. Que Dieu vous bénisse et hâte votre résurrection au nom du Christ.
Amen, murmure le père capitaine De Soya. Il ferme les yeux et l'accélération commence.